Nous vous présentons dans la série Les Camps Radiophoniques un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Est arrivé au soufflet dans le hall de la maison. Éric, Françoise ! Éric, Françoise ! Françoise ! Une porte qui claque. Des pas. Et elle apparaît, descendant les escaliers. Tout essoufflé. Les cheveux défaits. Triste. Que se passe-t-il? Françoise, il est arrivé un malheur. Votre mari a un accident en forêt. Où est-il? Il est au fond d'un ravin. Il faut appeler les pompiers du secours. Que s'est-il passé? Des troncs d'arbres lui sont tombés dessus. L'ont fait tomber dans un ravin. Mon Dieu! Téléphonez vite à la gendarmerie. Et court au salon téléphoner. Interroger Nicolas, il nous a laissé en le disant de rester dans les parages. Il y aura une autopsie du corps et Nicolas devra expliquer l'accident. Nicolas est effondré. Il ne sait pourquoi. mais se sent coupable. Ils sont tous deux assis au salon. Il ne sait pas quoi, il ne sait quoi lui dire. Il n'ose pas la regarder. Elle se lève pour faire les 100 pas. Puis, elle se met le dos à la cheminée et lui dit « Voilà, je suis libre. » Il le regarde bien, surpris. « Eh bien, oui, je m'en vais tout de même pas jouer la veuve et pleurer. » Surtout que je t'avais dit que je souhaitais sa mort. Je vais devenir riche et nous pourrons nous marier. Jamais. Pourquoi? Votre comportement me dégoûte. Tu me fais mal en disant ça. Je te veux, je t'aime. Et si tu refuses de m'épouser, je te dénoncerai à la police en disant que tu es parti seul avec mon mari, qu'avant vous vous êtes disputé parce que tu avais cherché à me séduire et qu'il t'avait surpris et que moi j'étais en train de me défendre. Après une dispute avec lui, tu es parti, lui a couru après toi et qu'il avait dû te retrouver et que vous êtes disputé et peut-être même battu. C'est ridicule, la police ne vous croira pas. Tu veux que j'essaye? Nicolas joue ses épaules et lui dit, de toute façon je m'en moque. Qu'on me mette en prison. La vie ne m'intéresse pas. Elle lui répond, on dit ça? Et puis, pense au scandale, ta famille, tandis qu'un grand mariage. Et puis, j'ai des actions à la Warner, à la Gaumont. C'est bon pour ton avenir. Il serait assuré. Je t'aime tellement que je te donne tout. En échange, je veux c'est que tu sois mon mari. Elle s'approche de lui et elle se met à ses pieds. Il lui dit, comment feriez-vous pour vivre avec l'homme qui a été au service de votre mari? Et moi, avec la femme qui a tué son ex-mari? Il regarde bien dans ses yeux et lui dit, faites vite. Si vous attendez trop, la police aura des soupçons sur vous comme sur moi. Et même si vous voulez m'innocenter, il sera trop tard. Mais faites ce que vous voulez. Elle lui répond. Puisque je ne peux pas vous avoir, je vous excuse. Il lui demande. Comment? En disant que vous l'avez tué par jalousie, parce que vous étiez amoureux de moi. Cela ne marcherait pas. Personne ne le croira. Elle lui dit. Oh, vous savez, vous les artistes, les gens s'attendent à tout de vous. Tout le monde sait que vous vivez d'une façon pas très morale. Commence à être énervé et lui dit « Faites ce que vous voulez. De toute façon, vous n'avez rien gagné puisque vous ne m'aurez pas. Et puis ça m'est égal. Ça fait longtemps que je veux mourir. Si vous le voulez, je peux me dénoncer. » Il se lève. Elle le voit aller au téléphone. Elle se lève et d'un bond le rattrape. Elle met la main sur le combiné. « Non. » Alors que faisons-nous? Elle lui répond. Votre façon d'agir me donne envie de vous tuer. Mais je ne le ferai pas. Je dirai à la police que mon mari est parti se promener seul, comme il ne revenait pas. Vous êtes allé à sa recherche et que vous l'avez tué.
Elle sort de la pièce.
La police a dit que c'était un accident, que les troncs sont tombés parce que mal déposés. Les bûcherons ont été accusés de meurtre involontaire dû à inconscience. Durant tout le temps qu'ils ont été obligés de vivre ensemble, Nicolas et Françoise ne se sont presque pas parlé. vient de partir. Nicolas lui demande « C'est vous qui l'avez tué, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
« Allez-vous faire de mon secret ?» La mort m'attire. Votre secret est tombé dans un tombeau. Elle lui demande « Embrassez-moi. » Il la prend dans ses bras et lui dit « La mort vous rend encore plus désirable. » Et il l'embrasse. Puis, il lui dit « Le noir vous rend encore plus désirable. » Puis, il part en voiture. Arrivé chez lui, il détruit toutes les bandes magnétiques qu'il a fait avec le mari. Du temps et du travail pour rien. Il se dit que Françoise lui aurait donné un sujet de film. Reste quelques jours à se remettre de ses émotions. Et le vide revient, et avec le vide le désir de sauter dans le vide, de faire le grand saut. La journée, il reste enfermé chez lui à essayer d'écrire. Mais la plupart du temps, il ne fait rien. Et le soir, avant d'aller se coucher, il marche dans les rues au hasard, dans ses pensées. Parce que la nuit, c'est terrible, il n'arrive pas à dormir. Et les nuits sont longues, longues. Alors en marchant, cela le détend un peu. Cela le détend un peu. C'est pas un soir le même sur les quais de Saône. Il décide de descendre sous les quais, voir cette eau de plus près. Arrivé en bas, il voit accoudé au mur un jeune homme, grand, mince, ses cheveux en broussailles châtain, habillé d'un vieux jean d'un blouson râpé. Nicolas se met à côté de lui, regarde cette eau, toute noire, et dit « C'est ton martyr, j'aimerais mourir. » Le jeune lui dit sans regarder, mais en fixant l'eau. « Tu as raison, le monde est pourri. Vivre, c'est se battre pour avoir du travail, lutter contre la maladie, souffrir d'amour, vieillir. Le monde est empoisonné par la politique, l'alimentation, c'est des saletés chimiques, les déchets. Vous payez des impôts, charges, loyers. Tu as raison, vaut mieux mourir. » Nicolas lui dit, moi je veux mourir parce que je n'éprouve aucun plaisir. Je me sens malheureux dans cette vie. N'y ai pas ma place. Il n'y a que lorsque je rêve que je me sens bien. Et lorsque j'ai la possibilité de les faire vivre. Mais il n'y a rien qui m'apporte du plaisir. Je me regarde et lui demande. Même pas en faisant l'amour? Oui, parce qu'en faisant l'amour, on est toujours déçu. Personne ne se donne à fond. Un corps, c'est un corps. Qui voudrait se donner à moi à fond pour que je puisse me sentir vivre. Et je n'ai en illumination, elle lui dit, moi je veux bien. Viens. Il le mène dans un renforcement. Le jeune se plaque au mur et plaque contre lui Nicolas, qui l'embrasse sur les lèvres, caressant les cheveux. Puis, il le dégage, il ouvre sa veste et lui déboutonne sa chemise. Il caresse sa poitrine, la lui baise. Les mains douces du jeune homme font frémir Nicolas. Ensuite, le jeune lui défait son ceinturon, il descend son pantalon, il touche au sexe par-dessus son slip et le lui descend. Il le suce goulûment en lui caressant les fesses. Après avoir joui et rhabillé, Nicolas lui prend la tête, la met sur sa poitrine, lui caresse ses cheveux. Merci, tu es très beau. Le jeune lui demande, t'as toujours envie de mourir? Nicolas lui répond en continuant à le caresser. Il lui dit, est-ce que tu m'as prouvé que tu m'aimais? Aide-moi à mourir. Le jeune met sa tête sur sa poitrine et lui dit, je peux te procurer un revolver? Oui, il lui faut de l'argent. Nicolas se dégage et sort son portefeuille. Lui tend les billets. Tiens, cela suffit? Faudra bien, attends ici. Et le jeune remonte le quai. Nicolas le laisse aller. Il a confiance. demi-heure plus tard, le jeune revient et lui tend le revolver en lui disant « Il est chargé. » Nicolas le prend et lui dit « Suis-moi. » Le jeune jette le revolver dans l'eau et lui dit « Je ne peux pas. Si tu es quelqu'un qui est déjà mort. » Nicolas lui dit « Et tu as fait l'amour avec moi. C'est que je ne suis vivant. » Je lui réponds « On fait l'amour, c'est pour sortir du monde. » Et il s'éloigne. Nicolas le regarde s'éloigner et s'en retourne, lui aussi, pour aller chez lui. Une fois dans son lit, il se dit « Cette nuit, j'ai jamais été aussi près du plaisir et de la mort. Le plaisir s'est envolé et la mort n'a pas voulu de moi. » Il sent un grand vide. Durant plusieurs jours, il a la tête vide, ne peut penser. Ça lui donne sommeil. Et à chaque fois qu'il veut penser à quelque chose, cela le fatigue. Il peut se concentrer. Il a peur de ne pouvoir écrire. Il se sent comme dans un demi-coma. Il se sent coupable de ne rien faire. Cela l'énerve. Alors il essaye d'écrire comme ça, n'importe quoi, en se disant qu'à force d'écrire, des idées vont jaillir. Il écrit ce qui lui arrive, les petites choses de la vie. De temps en temps, il aimerait écrire des choses plus profondes, mais il n'y arrive pas. Et lorsqu'il commence une histoire, il regrette de ne pas en écrire une autre. Donc, il reste la journée enfermé chez lui, à essayer d'écrire. Pendant ce temps, sa mère se sent délaissée, Son mari ne s'occupe plus d'elle. Elle a le cafard. Un après-midi, en ville, elle regarde une affiche d'un concert qui a lieu à l'auditorium. Vous aimez Schubert ? Elle sursaute et voit un jeune homme grand, mince, dans les 25 ans, cheveux châtains, lunettes à monture métal, habillé d'un pastel gris. Elle lui dit « Oui, beaucoup. » « Moi aussi. » « Vous avez décidé d'aller à ce concert ?»«
Je ne sais pas. » »«
Moi, vous. » « J'y vais et je serai heureux de vous y accompagner. »«
Mais nous nous connaissons à peine. » »«
Eh bien, cela nous permettra de nous connaître. » Elle sourit, le trouve beau garçon, hausse les épaules et lui dit
« Ma foi, j'accepte. »
Disons, nous donnons rendez-vous devant l'auditorium à 20h30, ce soir. Oui. Et il se quitte. Et le lendemain, elle le retrouve devant l'entrée de l'auditorium.
« Bonsoir. »
Il lui répond. « Bonsoir. J'étais sûr que vous alliez venir. » Elle va pour lui dire quelque chose. Il la prend par le bras et lui dit « Entrons vite. Ça va commencer. » Et ils sont entrés dans le hall. Il lui dit, j'ai déjà payé les places.
Merci, je vous rembourserai.
Surtout pas. Durant tout le concert, elle sent son regard, cela la chauffe. Un beau jeune homme comme lui, qui la regarde constamment. Après le concert, une fois dehors, il lui dit « Je vous raccompagne. » Elle lui dit
« Vous avez du temps à perdre. »
Et ils se mettent en marche. Il lui demande « Vous habitez où ?»«
Oh, j'habite loin. Accompagnez-moi jusqu'à un taxi. »
Tout en marchant, il a des visages et lui dit « Vous êtes très belle, vous savez. » Elle sourit et lui dit
« Vous vous moquez de moi. » Je suis beaucoup plus vieille que vous.
Non, je vous assure, très séduisante.
Alors vous deviez être mieux. Je pourrais être votre mère.
Voulez-vous vous taire ? Allons dans un café, boire un verre. Et il l'amène dans un café, près de la rue Garibaldi. Il y a du monde qui s'assoit à une table. Il fait signe à un serveur et commande.
Deux bourbons, cela vous va ?
Oui. Voir que le serveur s'est éloigné, il demande.
Que faites-vous dans la vie ?
Je suis étudiant en médecine.
Oh, je vois, les étudiants en médecine sont très peu sérieux.
Et qu'en savez-vous ?
J'ai vu dans un film, les étudiants organisaient une des fêtes et faisaient mettre à poil les infirmières. Je ne saurais ni dire. C'est du cinéma. En réalité, un étudiant en médecine, c'est une personne très sérieuse, avec des tas de bouquins et d'éclenseurs. Bien sûr, de temps en temps, on fait des petites fêtes, mais c'est rare. Et lorsque l'on s'amuse, c'est d'une façon gauche, comme des fils à papa, que l'on est d'ailleurs. Et ils n'ont pas l'habitude de faire la fête. Vous voyez à peu près la chose. Et puis, on n'a pas le temps de rigoler. La plupart du temps, on est très sérieux. Elle lui dit, ça c'est vous qui le dites. On leur apporte la boisson. Ils la serrent et ils boivent. Il lui demande, vous appelez comment?
Elisabeth, c'est idiot.
Pas du tout. C'est très joli, Elisabeth.
Et vous?
Georges, cela fait vieux, mais je viens d'une vieille famille de notaires de province qui sentent la naphtaline et le vieux cuir.
Ne dites pas ça. Mon mari dirige ma roquinerie, alors l'odeur du cuir, je connais.
Ah, vous aidez votre mari?
Non, plus maintenant.
Une fois qu'ils aient fini de boire, ils décident de sortir du café. En marchant vers la rue, il lui demande, vous voulez venir chez moi terminer la soirée? Et souris lui dit,
il se fait tard.
Ils arrivent à la station de Stasti. Elle lui dit,
au revoir.
Je vous reverrai quand?
Soyez raisonnable. Et faites-vous changer de lunettes.
Et elle entre dans le taxi. Au salon. Elle décroche, le téléphone a sonné.
Allô?
Vous êtes Elisabeth Scraff?
Oui.
Je suis Georges.
Georges qui?
La personne avec qui vous étiez au concert. Vous vous souvenez?
Oui. Mais comment avez-vous eu mon numéro de téléphone?
J'ai simplement regardé dans l'annuaire.
Mais, et mon nom?
Je vous ai suivi dans un taxi l'autre soir.
C'est pas bien du tout.
Ne dites pas que vous n'êtes pas contente de m'entendre.
Pourquoi devrais-je être contente?
Parce que vous aimez bien, que l'on vous aime.
Merci.
C'est un peu court. Vous devriez être heureuse. Êtes-vous heureuse?
Mais, oui.
Ah, vous voyez bien, puisque vous êtes heureuse de m'entendre, pourquoi ne pas nous voir? Alors ce soir, en bas de chez vous, à 20h30, je vous amène au restaurant.
Mais non,
vous ne pouvez pas me refuser. Avec moi, rien qu'avec moi.
Je ne peux...
mais si, c'est moi, Georges. Vous ne pouvez pas dire non. Nous mangeons très bien. Le soupir lui dit,
bon, eh bien oui, ce soir...
Heureux, vous ne pas savoir, vous ne savez pas, vous n'allez pas le regretter, je vous le promets.
Le soir, lorsque son mari rentre, elle lui dit « Je dois sortir ce soir. Je vais aller voir une amie qui est souffrante. »
« C'est pas grave. »
« Non, je ne le pense pas. »
Elle se dit
« Heureusement qu'il n'ait pas demandé le nom de mon amie. »
Et à 20h30, elle retrouve en bas de chez elle, Georges.
Il lui dit, bonsoir.
Bonsoir. Vous auriez pu choisir un autre endroit. Nous aurions été vus par mon mari.
Il sourit et lui dit, tout à l'heure, vous aurez des choses à cacher à votre mari.
Quoi?
Rien. Allons. Je vous mène place où était. Il y a un petit restaurant très sympathique. Et ils y vont. Elle se demande si les passants la prennent pour une mère qui sort avec son fils.
Le restaurant s'appelle La Tablée. Ne paye pas de mine, mais elle y mange bien, n'est pas trop cher. Le décor ressemble à un chalet, et il y a des tableaux au mur.
Il s'assoit à une table dans un coin tranquille.
Le serveur, un grand jeune homme à cheveux et moustaches brunes, vient vers eux pour la commande. Georges commande le menu le plus cher. Et lui dit,
qu'est-ce que vous faites trop? C'est presque pas faim.
Vous devez manger pour prendre des forces. On les sert et ils mangent. Soupe à l'oignon, salade lyonnaise, pâté en croûte, canard à l'orange, gratin de crevettes, fromage et tarte aux pommes. Menu simple et bien préparé. Tout en mangeant. Je rêve d'avoir une voiture. J'en ai assez de marcher à pied. Malheureusement, c'est affreusement cher.
Vous êtes jeune, vous pouvez attendre.
Attendre, attendre, toujours attendre. C'est long.
Moi, j'ai bien attendu.
Oui, mais vous n'avez pas fait médecine.
Oui, et alors?
Ça dure des années, les études. Et après, ce n'est pas facile. Il faut avoir au moins 30 ans pour gagner sa vie. À 30 ans, je serai vieux.
Si à 30 ans, vous êtes trop vieux, moi alors.
Mais vous, c'est pas la même chose. J'étais un moment. Il lui dit, si quelqu'un pouvait m'avancer l'argent pour la voiture, elle lui dit,
ça va pas être facile à trouver.
Non. Eh, pour qu'ils aient fini de manger, ils sortent du restaurant.
Il lui dit, viens chez moi, je ne peux pas.
Ne regrettez pas, je vous le promets. Je suis Georges, vous ne pouvez pas me refuser, vous êtes si belle.
Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Elle regarde bien. Ça, on peut dire que c'est un beau garçon. Son mari la délaisse. C'est pas souvent que l'on a un beau garçon. Et puis, avec un sourire et sa façon de dire « Je suis Georges », c'est touchant. Et c'est tellement bon de s'entendre dire que l'on est belle. Alors, à quoi vous pensez? C'est oui?
C'est oui.
Hein? Il sourit et la conduit vers chez lui. Ils y vont à pied. Ils y vont à pied. C'est pas très loin. Vous verrez. On traverse le pont et c'est vers les pentes de la Croix-Rousse. Rue Bouteille, elle lui dit.
Le pont ce quartier, il me donne l'impression d'être un coupe-gorge.
C'est le quartier de Guignol, il vous défendra, elle sourit, lui dit.
Et la mer cotivée.
Ils arrivent rue Bouteille, qui est une petite rue près de la place Tatonnet. Rue étroite, maison lépreuse et grise, avec des étendages aux fenêtres, chauffage et cuisinière au charbon, sale, mal odorant, humide, sans sanitaire, un évier en pierre dans le coin cuisine et baissé dans l'allée, ce qui donne mauvaise odeur aux allées. Sa pullule de chat. La rue est habitée par des gens du peuple triste, buvant trop et n'ayant aucun avenir. Elisabeth voit ça un peu dégoûtée, mais se dit que c'est un étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent. Il a fait entrer au numéro 5, un immeuble de 2 étages. L'allée est un passage noir avec des escaliers étroits en pierre. On n'y voit presque rien dans l'allée. Au premier étage, il va ouvrir la porte de son appartement, un effet. Le sol a du nilo. Les meubles sont des meubles dépareillés populaires 230. Petit couloir, séjour avec cuisine, chambre avec coin toilette. C'est sombre, triste. Voilà, c'est chez moi. Elle ne dit rien. Enlève ton manteau. C'est ce qu'elle fait. Elle le lui donne, la met sur la chaise. Et enlève le sien. Tu veux boire quelque chose?
J'ai déjà bien bu.
Allez. Un petit quelque chose, ça te remontera. Un petit calva.
Bon, si tu veux,
assieds-toi. Et s'assois sur une chaise près d'une table basse. Ouvre le buffet. En prend 2 verres. Il dépose sur la table basse. Il sert. aussi j'en penchai. Allez. Tchin tchin. Après avoir bu, ils posent leur verre.
Elle lui demande, c'est ici que tu vis?
Oui, j'ai ma chambre et en plus un coin de toilette. Viens voir.
Voir la chambre d'un jeune homme?
De Georges. Je suis Georges.
Bien, je veux bien.
Elle se lève et le suit. La chambre est une grande pièce, avec un lit à deux places, une armoire et, chose étrange, une baignoire 900 dans le coin de la pièce. Elle lui demande,
c'est votre coin toilette?
Non, mais j'ai trouvé cette baignoire chez un brocanteur.
Radio Canouse a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur, dont c'était la 20e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.